est-ce qu'il est encore passé, ce maudit chat ?
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz. Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission du syndicat du commerce et de la restauration de la Confédération nationale du travail, animée en direct sans retenue ni complaisance chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois par ses militants sur leurs 8 heures de loisirs quotidiens pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire.
Édito du lundi 7 novembre 2022 du Monde Merveilleux d'après. À partir du 8 novembre commence la semaine antimilitariste de la FA qui doit durer jusqu'au 3 décembre. Une très longue semaine, mais les événements justifient un tel étirement. Notre émission tend le micro à Joël, dit Jojo. Et Elvira, dit Zaza. Oh. Tous deux de l'Union pacifiste pour faire le point sur le militarisme ou l'antimilitarisme. Des origines du 11 novembre et l'actualité guerrière en Ukraine, même s'il n'y a pas que là-bas qu'il y a la guerre. Et puisqu'il faut bien les préparer, ces guerres incessantes, nous ne manquerons pas d'évoquer le SNU, le Service National Universel. La chronique du jour restera dans le thème et la musique que nous vous imposerons ne fera pas mieux, de près ou de loin. Comment cette journée internationale de l'écrivain africain nous mobiliser pour que cessent les pluies d'obus, vous le saurez en écoutant Le Monde Merveilleux du Travail, avec des petites fleurs sur les oreilles. On se fait une petite présentation des invités avant de lancer la chronique.
Petit tour de table, ce soir nous accueillons...
Elvira.
Alors ?
De l'Union pacifiste.
Accompagnée de...
Joël. Pareil.
De l'Union pacifiste, mais pareil, pareil. Que des pacifistes, mais c'est parfait, je n'ai plus de retour. Et en compagnie, bien sûr, de Fabrice, qui est parti régler un petit problème technique à la technique, et de votre serviteur, Eric, du syndicat du commerce, bien sûr, à la technique, la camarade de... Bénédicte, que je ne voyais plus, mais qui a un reflet dans la glace. Donc, eh bien, pour une émission consacrée au pacifisme ou à l'antimilitarisme, d'ailleurs on verra s'il y a des définitions, est-ce que c'est la même chose? On verra ça au cours de notre émission. En trois temps, je pense, on abordera la question du SNU, la question du 11 novembre, un symbole, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui ? Évidemment, ça correspond à cette semaine très particulière antimilitariste. Et puis, un troisième point, je crois, qui est lié et qui fait l'actualité, malheureusement, depuis 7 mois, c'est la guerre russo-ukrainienne, ukraino-russe, voilà, qui occupera notre débat.
Et les fusillés morts pour l'exemple. Les fusillés... Voilà, aussi. On évoquera cela.
Et tout de suite, la chronique de notre... La chronique...
La chronique quoi ? Du mercator ?
Non, la chronique de... Mais non, pas du mercator. Oui, ben non. Pas tous les jours.
Mémoire d'un nanar.
Mémoire d'un nanar qui revient de la technique. Allez, c'est parti, mon kiki.
J'avais prévu...
C'est une histoire assez curieuse.
Qu'est-ce que tu dis ?
Toi, si jamais tu me redis qu'est-ce que tu dis, je vais finir par te le dire, tu vas voir.
Qu'est-ce que tu es con, ça trouve ?
J'avais prévu une chronique sur l'autoritarisme, vaste sujet qui va du fonctionnement d'une structure politique à la dictature individuelle. De tous contre tous, mais voilà que le Monde Merveilleux du Travail prévoit une émission avec l'Union pacifiste. Tiens, que je me dis, je vais la placer dans cette émission. Quand on dit pacifisme, on y associe antimilitarisme, où s'exerce le mieux l'autoritarisme que dans les forces de l'ordre armé. Militaires et gendarmes, on visionne bien l'univers casanier de la caserne. Bon, il y a la police aussi, mais pour eux, ce qui nous vient à l'esprit, c'est plutôt la cellule de dégrisement et la garde à vue. Les CRS et la brave, où c'est carrément l'arbitraire qui prédomine. La caserne. Il y a plus de 30 ans, tout bon citoyen atteignant sa majorité a pu la connaître. C'était le bon temps du service militaire. Ah, que de souvenirs! Là, vous vous dites, il va nous raconter sa vie de bidasse avec ses franches empoignades de camarades de chambrée, l'étape sur les fesses après un tir ajusté à plus de 300 mètres. Les classes avec le lancer de grenade au plâtre. Bon, tant pis pour les faits. Tout ça sur le ton badin du comique troupier. Ben non, parce que j'ai pas fait. Je suis prêt, je ne suis pas un vrai bonhomme. Comique troupier, à la rigueur. Technicien, je suis pas.
C'est comique.
Bon, c'est pas grave. J'ai fait mes 3 jours pourtant. Et à 2 reprises. Du coup, j'en ai fait 3 complets. Parce que les 3 jours, c'est 2 jours et 1 nuit. Apparemment, chez les militaires, ça fait 3 jours. Bon, t'es pas là pour apprendre à compter sur tes doigts. Hein. Donc, le dimanche même de la seconde élection de Mitterrand, je suis parti pour Cambrai. Je partais d'un petit patelin du sud de l'Aisne, Marigny-en-Orxois, pour ne pas la citer. Fallait prendre le train avec un changement dans une petite gare perdue. Il n'y avait que 5 heures d'attente pour la correspondance. J'ai attendu sur un banc. C'est mon unique expérience à ce jour de vie de bohème, ou plus précisément de clochard. Je suis arrivé à la caserne comme un pouilleux, sous l'œil ricaneur des appelés, qui nous appelaient les Bleus, eux qui avaient pourtant subi l'affront avant nous. Tu suis ton sergent recruteur qui t'explique, documentaire à l'appui, que l'armée est une grande famille, qu'ici tu n'as que des copains, que ta vocation est de défendre les civils. On ne dit pas les intérêts bourgeois en ce lieu. L'assurance d'une vie de poilade, quoi. Si ça ne t'a pas coupé l'appétit, tu passes au casse-croûte, à la cantoche, jus de pomme, faillot, comme à la communale. Et te voilà fin prêt pour la visite médicale, malgré quelques ballonnements d'estomac. La visite, c'est un peu là que va se décider ton destin de bidasse ou pas. Alors, il y a ceux qui veulent l'être, mais pas trop dans l'armée de terre quand même. Et il y a ceux qui ne veulent pas. Ceux qui ne veulent pas, ils ont tous des tares génétiques ou des graves maladies. Sauf qu'on n'a pas pensé à amener les radios et autres attestations médicales. Après, c'est normal, hein. La plupart du temps, t'es pas affecté par une malformation. Tu boites en pensant que l'affaire sera vite réglée, enfin sera réglée vite fait, bien fait, tu te fies aveuglément à ton talent inné de comédien. Alors tu boitilles sur des lignes vertes, jaunes ou rouges, en fonction de ta pathologie. Oui, il y a des grands couloirs où sont tracés sur le sol des couleurs que tu dois suivre, selon que tu as bien exercé ou non ton talent de simulateur. Toi, le communiste, tu prendras la rouge, ainsi de suite. J'ai rencontré un type qui voulait être incorporé, mais qui au final ne l'a pas été. Il n'arrivait pas à suivre les couleurs. Il était littéralement en larmes. Alors que nous, les petits malins, on l'enviait. Lui, il redoutait le retour à la ferme et les railleries de son environnement social. Je vous rappelle que c'est par l'armée que le jeune homme entre de plein pied dans la vie d'homme. N'empêche que tu passes ton après-midi en slip, solarisé des appelés, qui eux, font comme des cons leur temps en uniforme mal taillé. C'est quoi votre problème à vous, me demande le corps médical. J'ai une perte d'audition à l'oreille droite. Tu m'étonnes, Mitterrand vient d'être réélu, c'est tendance qu'il me lance l'ORL. Je me suis dit que si j'étais pas réformé, j'allais quand même bien me marrer pendant 1 an. Bon, vous reviendrez avec vos radios et votre attestation. Il te fait un clin d'œil, il a bien compris la combine. Quand t'as fait le tour du bâtiment, tu te rhabilles et tu retournes à la cantine. Il est déjà 18h. Après avoir ravalé du jus de pomme et des faillots, on t'emmène digérer dans la salle de cinéma. Il y a des affiches des Barbarians, ceux qui connaissent, et autres films d'action. Mais ce soir, c'est comédie. Gérard Jugnot et Jean Rochefort. Tout le monde se met à gueuler. On veut du cul, de la chic et du molard. Je me dis que si je n'étais pas réformé, j'allais passer une sacrée année où la culture allait côtoyer le bon goût. À la fin de la séance, on t'envoie faire dodo. Elles sont où les chambres? Devant toi, choisis ton lit. C'est un dortoir immense avec des lits en ferraille. C'est coquet et tellement intime. À l'époque, c'était pas la mode d'être LGBT. Du coup, il y en a un qui a quand même eu sa chambre. Il a été isolé. Était-ce pour qu'il ne nous viole pas dans la chambrée pendant notre sommeil? Est-ce que les gradés se le sont réservés à tour de rôle sans qu'un nous empêcher de dormir? On l'a jamais revu, le gamin. Moi, j'ai tout fait pour retarder le service, en me disant qu'ils allaient peut-être finir par m'oublier. Que nenni. J'ai juste réussi à gagner 4 ans. Je me suis retrouvé le doyen des pioupiou. On m'a laissé tranquille, car la nuit a dégénéré en bataille de polochon. Bordel, si je suis pas réformé, je vais passer 12 mois avec des enfants chahuteurs. À Sainte-Cœur du Mat, tout le monde debout. À la douche! C'est où la douche? Devant toi? Mais c'est un lavabo! Vous êtes 200 à passer, vous avez 4 minutes chacun pour vous laver, vous habiller, descendre prendre un petit déjeuner. Quand tout ça finit, c'est-à-dire l'avant-goût de la vie de caserne, tu te retrouves dans le train de retour avec des copains, tout blanc. Ça va pas que je demande? Non. J'ai dit que j'avais des problèmes de colonne vertébrale, et c'est pas vrai. Ils me reconvoquent avec mes radios de scoliose. Je suis bon pour la caserne disciplinaire. Mon pauvre vieux, t'en fais pas, va. Ça ne dure que 365 jours. Ça paraît long comme ça. L'effort physique, les réveils hâtifs, le ronron des corvées, la coupe de cheveux réglementaire bien dégagée autour des oreilles, l'enfermement, les horaires fixes qui rythment ton quotidien. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que j'allais me lever à 5h du matin les 30 années suivantes pour aller bosser. Comme quoi, on te formate à l'école, on t'enferme à la caserne et t'es bon pour le boulot. Bon, chers auditeurs, vous allez échapper à la suite car je ne m'en souviens pas. Mais j'ai été réformé. Depuis, mon oreille va mieux. Vous voilà rassuré. Alors, vous n'avez pas beaucoup appris sur l'autoritarisme. Ben non, ça sera pour une prochaine fois. Mais sans dire que l'on vit dans une dictature, notre vie est quand même bien bordée. L'institution étatique garde le contrôle sur nous. Elle n'aura même plus besoin d'être plus autoritaire qu'elle ne l'a jamais été. Le cadre, les lois, les caméras de rue suffisent au fonctionnement d'une structure politique jacobine et culturelle bourgeoise. L'autoritarisme en devient même désuet en France. Le totalitarisme, en revanche, a de beaux jours devant lui. Et avec l'appui des masses encore. À chacun de balancer sur les réseaux sociaux les individus cancel, selon sa propre morale, ou revanche à prendre, ou même vendre un projet commercial vert pour relancer une économie à bout de souffle, quitte à soutenir une idéologie bourgeoise liberticide. Alors, levons le poing, à bas l'autorité, vive la liberté d'interdire, vive la chasse aux sorcières dans l'intérêt commun. Te faire Alors préparons-nous à la guerre, à l'affaire, c'est pas tout à fait à la guerre militaire, quoique c'était Carmen Maria Vega. Bon, ce qui compte, c'est que l'on soit tous unis les uns contre les autres. Le capitalisme nous y prépare. Non ? Bon, on est réunis là pour le... On est réunis ensemble avec Joël, Elvira, de l'Union Pacifiste, je le rappelle, Eric. Et on est le 7 novembre, donc ça précède le 11 novembre. Est-ce qu'on peut peut-être faire un rappel sur ce qu'est le 11 novembre ? Et puis je crois que Elvira, tu avais des choses à dire aussi.
Justement, je voulais faire un enchaînement avec ce que tu avais dit tout à l'heure, là, sur la chronique. Et sur un texte, je reviendrai sur l'origine. Et en fait, c'est non au service national. Donc ça date de l'année décembre 73. Et justement, les jeunes qui vont faire leurs 3 jours reçoivent le tract suivant, signé par le GARM et le GIT à l'époque, en 73. Donc c'est sur ce livre-là que je vais vous ressortir des éléments importants et qui en plus font quand même le lien avec le service national universel d'aujourd'hui. Donc ça fait aussi non au service national, mais on pourrait dire aussi non au service au SNU, service national universel. Voilà. Et donc à l'époque, donc le tract, il disait non au service national. Bientôt tu seras soldat, un uniforme parmi d'autres, un rouage de la machine militaire. 12 mois pour apprendre à être demain un ouvrier et un citoyen docile, résigné, heureux. Un peu ce que tu disais tout à l'heure dans ta chronique, on y revient. L'armée ne fait pas de politique, c'est ce qu'ils nous disaient, hein, qu'ils nous disent d'ailleurs toujours, hein, ils n'ont pas changé le discours. Plus tard à la caserne, on te sortira les grands bateaux, le drapeau, la patrie, la défense des libertés, la grandeur nationale, l'indépendance, la peur des rouges, des jaunes, etc. À part ça, l'armée ne fait pas de politique. Jouer les autobus, ramasser les poubelles, garder les musées pour briser les grèves. Donc nous, les syndicalistes, on sait ce que c'est aussi. C'est pas de la politique non plus, ça, hein, n'est-ce pas ? Écouler la camelote des Dassault et compagnie, s'entraîner à réprimer tout mouvement populaire, c'est pas de la politique. Chasser les moutons du Larzac, faire des manœuvres pour les clients de notre beau matériel, c'est pas de la politique. Parader en Afrique, taper dans la main à Franco, c'est pas de la politique. Marche droit, ferme ta gueule, sois un homme. On va te dire, sois un homme, fais du sport, prends du bromure, couche sur la dure, bouffe des conserves, marche droit, ferme ta gueule et sois content. Pour eux, c'est ça un homme libre. Libre d'aller à l'école jusqu'à 16 ans. Libre de faire n'importe quel boulot, n'importe où, n'importe quel salaire. Alors, je rappelle que c'est l'année 73. Donc, aujourd'hui, avec tout ce que nous prépare le gouvernement et qu'il a déjà commencé, il faudrait accepter n'importe quoi, à Pôle emploi, justement, aller n'importe où. C'est exactement la même chose. Libre de faire n'importe quel boulot, n'importe où, pour n'importe quel salaire. On en est toujours là, en fait, hein, quand même quelques décennies après. Libre de voir sa liberté surveillée par les flics, pareil, hein. Libre de payer des impôts pour une armée qui gaspille. Libre de faire son service militaire obligatoire. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est pas obligatoire, le SNU, mais il nous le prépare depuis quand même quelques années, si je me trompe pas, depuis 2017 à peu près, 2018, hein, Joël. Donc, il nous disait au début que c'était facultatif, mais là... même avant les élections, les dernières élections de Macron, il nous disait que quand même, il envisageait que ça soit obligatoire. Et pour cause, peut-être qu'il pensait déjà à la guerre d'Ukraine. Hein, donc voilà, tout ça s'est bien préparé. Oui, sois libre, n'aie pas peur, dis ce que tu as envie de dire, que tu en as ras-le-bol des guerres toujours me recommencer, que tu n'as pas envie de te faire tondre et de t'aligner, que tu te moques de leurs épouvantails, que tu veux vivre et pas seulement comme un pion des possédants. Objection, insoumission, désertion, contestation. Aujourd'hui, les tests et les examens, c'est pour voir si t'es futé. Mais de toute façon, pendant 12 mois, on te traitera comme un imbécile et tu perdras ton temps. Ne te laisse pas isoler, intimider ou étouffer. Dans plusieurs casernes de France et d'ailleurs, des jeunes parlent et agissent, s'organisent, prennent des libertés ou même se révoltent. Exigent d'être traités comme un homme, refusent de marcher à la menace et à l'injure. Et si tu ne veux pas être appelé à vivre 12 mois là-dedans, la caserne n'y va pas. Comme d'autres jeunes, demande ton statut d'objecteur ou bien insoumets-toi. Alors, ça peut un peu relever le problème également de l'objecteur de conscience. Parce qu'effectivement, il y a une loi qui est passée après De Gaulle, après la grève de la faim de Louis Lecoing, sur l'objection de conscience. Sauf qu'avec ce qui est en train de se passer sur les SNU, on se pose des questions sur l'objection de conscience. Parce que ça va être obligatoire, mais... on sent qu'il y a des articles de loi qui vont modifier cela et donc l'objection, elle sera peut-être pas... il faudra s'effondrer, hein, j'ai l'impression. Hein. Mais on reviendra certainement à une autre occasion. Donc, comme vous voyez, ce sont vraiment des choses qui sont quand même d'actualité. Alors, c'est dans un tract de décembre 73, donc ce que je viens de vous lire, dans le livre qui s'appelle « Résister à la militarisation ». Donc, c'est le groupe d'action et de résistance à la militarisation de Lyon, 1967 à 1984. Et dans ce tract, le pouvoir, il tente de briser l'expression publique de ce mouvement, son caractère collectif, sa popularisation, en arrêtant les insoumis un à un et en diversifiant de manière arbitraire les sanctions. En inculpant 11 distributeurs de tracts pour incitation de militaires à la désobéissance. Le ministre soutient que l'armée est le dernier recours de notre société libérale. Char français en Grèce, manœuvre avec Franco, donc 73, rappelez-vous, Franco il est mort en 75, donc vous voyez, on était quand même bien complices de tout cela. Présence militaire dans les DOM et les TOM. Nous vous déclarons opposés à ce genre de société. Nous nous déclarons opposés à ce genre de société libérale. Nous sommes les marginaux ennemis de la nation. Le tract se termine en incitant à assister aux séances du tribunal militaire et à protester contre les sanctions arbitraires. Voilà ce qui se passait, ce qui se disait déjà à l'époque et qu'on est obligé de recommencer et qu'on est déjà en train de le faire avec le nom OSNU dont on viendra peut-être un peu plus tard.
Plutôt vers la fin. Oui. Donc moi, j'aurais voulu qu'on l'aborde un petit peu sur donc la célébration du 11 novembre, parce qu'il va y avoir pas mal de manifestations, justement. Enfin, on va rentrer demain dans la semaine antimilitariste. Le 11 novembre, il va y avoir des interventions de l'Union pacifiste, chez Publico. Oui, Publico. Donc, je pense que c'est peut-être bien de rappeler ce que c'est que le 11 novembre. C'est l'armistice, 14-18. Mmh. 14-18, donc la guerre, hein. Première guerre mondiale. La der des der. Je rigole, excusez-moi, c'est pas drôle. Mais...
Non, mais il faut le mettre. Mais non, mais je. C'est quand même.
C'est quand même marrant d'appeler à la der des der. Je vous ai amené un petit.
Moi, je. Ah, d'accord.
Mais, alors, ça vient de la der des der.
Moi, j'avais un petit bouquin d'un peintre qui s'appelle Zemmer. Il est décédé il y a pas longtemps, il y a deux trois ans peut-être. Et donc il prenait des photos de vieux journaux, quoi. Donc il avait pris un monument aux morts de 14. Et donc il l'avait un petit peu arrangé et il a fait le monument aux ivres morts. Et donc, y a la bouteille, on voit, il y a la bouteille dedans, il y a le verre et tout.
La place des armes.
Ouais, ouais. Et écoute, j'avais l'intention d'un jour de déguiser le monument par chez nous, puis j'ai jamais fait, mais je vais y repenser. Il avait aussi.
Toi, t'as envie de faire de la garde à vue, toi.
Non. Oui, il s'était amusé aussi. Il avait chopé ça dans un journal des années 30, un truc comme ça, je sais pas. Alors, il faisait la course avec des jambes de bois.
Voilà. Et lui, il avait fait... C'est visiblement des anciens combattants.
Ça existait. Avec le mec qui est par terre, ouais, qui se retrouve par terre. Et donc, lui, il a fait un tableau. Il a fait un tableau avec la course des jambes de bois. Et donc, le départ avec les...
En uniforme.
Ouais, ouais, en uniforme flambant neuf au départ. Au départ, ils sont avec le casque, la tenue Garance, rouge. Et puis, eh ben, ça se termine à l'arrivée. Eh ben, tout le monde en avec une jambe de bois.
Et une
puis,
canne évidemment, pour pouvoir se soutenir.
Le mec qui est par terre, qui n'arrive pas à suivre. Tout. Bon, c'était un bon dessinateur et puis un bon crobeur, des beaux crobards. Alors, bon, moi j'étais imprimeur militant, d'imprimerie quotidienne et jusqu'à Expression. Et on a bossé pour faire des affiches contre l'armée et tout ça. Et puis j'ai conservé plein d'affiches politiques, affiches antimilitaristes. Alors là, j'en ai amené une petite, mais je pourrais en amener des dizaines. Et c'était Cavana qui nous avait fait ça. Et bon, c'est une demi-affiche, je crois, pratiquement.
Ah, justement, dessus, il y a marqué le 11 novembre.
Ah, bah, c'est le 11 novembre.
N'est pas une fête de la victoire. Effectivement, est-ce que le 11 novembre, on le prend comme une fête de la victoire ou c'est une commémoration des atrocités de la Première Guerre mondiale?
Oui, mais pour nous, antimilitaristes, c'est pas une victoire. Hein. Et le 11 novembre commémore la fin d'une guerre répugnante. Et le 11 novembre est un jour de tristesse et de honte. On peut être obligé de subir la guerre. Il n'y a pas de quoi être en être fier.
Ah, c'est vrai que pour avoir assisté à des... j'ai un petit village, Marine-en-Orxois, j'ai cité tout à l'heure. Donc on a notre monument aussi, aux morts, pardon. Et c'est vrai que tous les 11 novembre, il y avait la commémoration avec les drapeaux, tout ça. Donc c'est vrai que... Alors, je ne dirais pas que c'est une fête, parce que c'est quand même un peu sinistre. Mais... Enfin, je sais pas. Après, je sais pas comment ça se prend dans les autres villages. Il y avait l'énumération des morts, mais c'est, je dirais pas que c'est une fête quand même. C'était pas. Enfin, moi, je l'ai pas vécu comme une fête. C'est quand même quelque chose de.
Pour nous. Mais les anciens combattants. C'est... Et puis après, t'as le verre de l'amitié. Et puis t'as le maire et puis le préfet qui viennent taper dans le dos. Donc c'est la fête pour eux. Bah, c'est oui, la fête.
Enfin, nous, dans les petits patelins, c'était pas là.
En même temps, c'est quand même une commémoration. Et souvent, c'est des monuments de glorification quand même de cette guerre. Des héros morts pour leur patrie. Donc nous, on n'est pas dans ça. Nous, on est plutôt... Heureusement qu'il y a eu énormément de communes. Je n'ai pas le nombre en tête. Mais qui, elles, ont fait leur monument justement contre cette glorification et contre cette guerre. Il y a par exemple, à Gensioux, une petite commune de la Creuse, ils ont fait leur monument avec un enfant qui maudite soit la guerre, hein, donc déjà, donc c'est pas forcément dans le même esprit que ce que commémorent les anciens combattants et tous nos gouvernants.
Le message est clair, ouais.
C'est l'enfant, et c'est un enfant qui montre du doigt le monument. Comme quoi, maudite soit la guerre, quoi. Donc, en 1900, par exemple, 22, les anciens combattants 14-18, ils voulurent marquer à jamais l'horreur que fut la guerre, et ils firent figurer un orphelin montrant de son point levé l'inscription « Maudite soit la guerre ». Ça, c'est dans une petite commune de la Creuse. Mais il y a d'autres communes dans l'Aisne, dans d'autres endroits.
Il y en a une centaine en France
qui, elles, commémorent à notre façon le contre cette guerre qui, pour défendre la patrie, en fait, a envoyé la chair à canon à tout va, et c'était quand même très horrible, quoi. Et d'ailleurs, je vous lirai un texte qui était quand même qui est pas mal fait, hein, enfin qui est bien fait, on va dire même, par un de nos camarades pacifistes, donc du GLUP, le groupe limousin de l'Union pacifiste. Hein, on a plusieurs groupes dans France, et donc il y a à Lyon, à Saint-Nazaire, et donc là c'est le GLUP, le groupe limousin de l'UP. Et il a écrit, donc il a écrit un texte qui s'appelle « Cher orphelin de Gensioux ». Donc Gensioux, c'est justement cette commune de la Creuse où il y a cet enfant qui montre du doigt « Maudite soit la guerre ». Alors c'est au nom de la section française de l'Internationale des Résistances de la Guerre, l'IRG, Le groupe Limousin, donc le GLUB, vient cette année encore saluer le monumental intégrité antimilitariste. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas voir, nous, les monuments, mais on ne va pas voir les mêmes, en fait. Hein. On va voir les monuments qui représentent l'antimilitarisme, ce nom à la guerre, quoi. Le réseau centenaire de l'IRG a été créé après la Première Guerre mondiale, donc c'était juste après. Hein. Il constate que depuis le 24 février 2022, il se trouve un peu seul à soutenir les insoumis et déserteurs tant d'Ukraine, 2 à 3000 quand même, hein, que de Russie. Donc on revient à l'actualité, malgré nous, hein, 15 à 20 000 en Russie. Dans ces pays, refuser de tuer, c'est risquer d'être fusillé. Pour l'exemple, jeté en prison, envoyé au goulag, lynché par des patriotes. Le déclenchement de cette nouvelle guerre en Europe implique lourdement l'organisation terroriste de l'Atlantique Nord. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, est norvégien, c'est le PDG de la plus grande usine à terrorisme. Son budget officiel est de 156 milliards d'euros. Autant en moins pour la survie de l'espèce humaine. La CIA fournit la totalité des renseignements dont il peut disposer. Belle garantie d'impartialité pour les 32 pays membres dont il exige de sacrifier 2,5% de leur PIB sur l'autel du militarisme. Apeuré par l'encerclement des armées occidentales fascistes, mais y a-t-il une armée qui ne soit pas fasciste ? Le KGB a fait lancer l'opération militaire spéciale par le président du présidium de l'Assemblée populaire suprême de Russie. Une bataille stratégique se déroule autour des 6 réacteurs nucléaires de Zaporijjia, qui signifie la terre au-delà des rapides, la région si chère à Nestor Magno. Cette bataille se stabiliserait en une guerre de position, avec les centrales occupées par des commandos de 500 mercenaires tatoués à la Wagner, contrôlant les 1000 salariés ukrainiens d'Energotown, encore plus fous qu'en France. Les dysfonctionnements de ces centrales ont de quoi faire trembler toute l'espèce humaine. L'OTAN, belligérante par procuration, a fourni gracieusement d'énormes stocks d'armes et des instructeurs à l'Ukraine, au point que le redoutable président Vladimir Poutine voit l'invasion par ses 190 000 soldats mis en échec. Il a obtenu auprès de Kim Jong-un, son homologue de Corée du Nord, le secours de 120 bataillons de 1000 soldats. Le rappel de 300 000 réservistes demande plusieurs mois, ne serait-ce que pour les conditionner au combat. D'autant plus que de nombreux s'enfuient par la Finlande, la Turquie ou la Géorgie. La prochaine grande offensive ne peut donc s'envisager qu'à la fin de l'hiver. Après 8 mois de guerre, les fabricants et les marchands d'armes ont engrangé d'énormes profits, ainsi d'ailleurs que les milliardaires oligarques, toutes patries confondues. La mafia des ultra-riches a tout intérêt que cette guerre traîne en longueur. Le terrorisme des bombardements aveugles et du tirer dans le tas provoque des milliers de victimes civiles en Ukraine. Il en est, hélas, de même partout ailleurs où les militaires se défoulent. L'exemple le plus énorme se passe en Palestine depuis 74 ans. Combien de coups de pied au cul faudra-t-il pour que les Français et Françaises prennent enfin conscience des abjectes manipulations nationalistes commises par les chefs d'État ? En France, 9 oligarques contrôlent 90% du matraquage médiatique. Est-ce une raison pour que la quasi-totalité de la population prenne fait et cause pour le camp de l'agressé ukrainien ? Pour prendre parti, la fleur au fusil comme en 1914. Quel monstrueux handicap de perception empêche-t-il de voir ces champs d'horreur, comme l'écrit Serge Chalandon dans Le Quatrième Mur. La guerre, c'est ça. Avant le cri des hommes, le sang versé, les tombes, les larmes infinies qui suintent des villes, les maisons détruites, les hordes apeurées, la guerre est un vacarme, à briser les crânes, à écraser les yeux, à serrer les gorges, jusqu'à ce que l'air renonce. Qui peut croire en 2022 à la protection par une armée ? Terroriser, torturer, violer, mutiler, tuer, est-ce cela se défendre ? Bon. Les gens en armes provoquent toujours plus de crimes. Du LBD au mini-drone, des chars Leclerc au canon César, des sous-marins nucléaires aux bombardiers éponymes, tout est à jeter. Le seul moyen d'arrêter les guerres, c'est d'affirmer haut et fort notre droit au refuser de tuer. Accepter de porter une arme, c'est consentir à assassiner d'autres humains. Endosser un uniforme, c'est obéir lâchement à des chefs. C'est commettre des meurtres sur ordre pour recevoir des merdailles. C'est exprès, hein. Merdaille. La résistance civile non violente des objecteurs insoumis et déserteurs, ça c'est du vrai courage. Comment justifier l'existence d'une armée sinon en inventant chaque jour de nouveaux ennemis? La paranoïa du chef militaire Emmanuel Macron lui fait embrigader les jeunes filles et garçons de 15 à 18 ans dans le service national universel. Objectif, renouveler le cheptel militaire au lieu d'accueillir les réfugiés climatiques. Le collectif Limousin non au SNU appelle les esprits libres à le rejoindre pour enrayer cet abominable conditionnement de mineurs à préparer la guerre. Impossible de vouloir la paix sans préparer la paix. Seule l'abolition de l'armée peut ôter définitivement la guerre. Si désarmer unilatéralement fait trembler à ce point les chefs d'État, voilà bien la preuve qu'ils veulent soumettre les peuples par la terreur. Ils produiront de nouvelles montagnes de cadavres, mais toujours avec la peau des autres. Vive les réfractaires à toutes les armées, vive les pionniers d'un monde sans guerre, maudits soient les militaires. Donc, vous voyez, ce texte, il parle du 11 novembre, de la commémoration, du service universel, national universel, et donc il parle aussi de tout ce que l'Union pacifiste revendique, c'est-à-dire non à la guerre.
Eh oui.
Du coup, ouais. Vous n'osez plus rien dire ou quoi?
Je peux pas
nous lire un texte.
Non, moi c'est juste pour. C'est juste pour. Non, c'est quelques chiffres, parce que le ministère des Armées et des Affaires étrangères, là, ils ont balancé 11,7 milliards en 2021, et là, le prévisionnel pour 2022, il est de 20 milliards. Alors, quand on est dans les restrictions, là...
Ah ben, c'est pas les restrictions pour tout le monde.
Ah hein. Ben non, là, ça sent... Tout va bien, là.
Ben, en fait, oui, il y a sans doute un intérêt aussi de financer l'armée. Enfin, je sais pas. Après, ça dépend si on appelle peut-être les lobbies ou...
Ben voilà, donc la France, on en est à 233 millions d'euros filés à l'Ukraine. Mais bon, les USA, ils ont 25 milliards, la Grande-Bretagne 4 milliards, la Pologne 1,8 milliard, l'Allemagne 1,1 milliard, tout va bien.
Ça leur permet d'écouler leur stock, je pense, parce que ça se donne aussi en armes.
Ah ben oui, mais c'est ça. C'est ça le grand problème.
Puis ils vont donner d'armes pour détruire, et puis il y aura de la reconstruction derrière. Donc,
Et puis ça donnera du travail.
C'est de l'investissement, ce qu'ils font.
Oui,
là.
Et puis ils vont nous dire que ça donnera du travail, comme si on ne pouvait pas faire un autre boulot.
Surtout qu'il y aura plus beaucoup de travailleurs. Donc,
oui, mais on fabriquera des robots.
Quand tu te prends les bombes sur la gueule, en général.
On fabriquera des robots pour faire des munitions. Ouais. Mais ça sera toujours les mêmes qui auront le pouvoir de financer tout ça, et puis surtout de faire des gros bénéfices là-dessus, quoi. C'est ça aussi. Hein.
Donc le 11 novembre doit être un jour anti-guerre. Et c'est pas d'hier, c'est...
Oui, non, mais là, je suis bien d'accord. Alors, effectivement, quand on parlait des monuments tout à l'heure, effectivement, à mon avis, ça dépend de la municipalité et où tu te trouves, où effectivement, d'abord, on a pu construire des monuments aux morts, mais qui dénonçaient, qui déploraient la guerre. Ouais, et puis ça va dépendre aussi après alors les municipalités à l'époque où ils ont construit les monuments et après les municipalités
qui ont accepté de faire les nôtres, quoi.
Ouais, mais même une fois qu'il est fait, hein, ils sont pas d'aujourd'hui les monuments, mais si la municipalité change, on peut toujours commémorer. Après, c'est le discours qui est fait qui va changer la donne aussi, peut-être. Pas se tenir juste au monument. Enfin, c'est bien qu'il y ait le monument mais il faut que les mecs qui interviennent, puisque c'est commémoré, c'est l'occasion, ça doit être l'occasion de dénoncer la guerre.
Oui, mais c'est pas ceux qui sont pro-gouvernement qui vont le faire. Donc c'est important que nous, pour pouvoir opposer justement à cette façon qu'ils ont de faire jusqu'à présent, enfin, qu'ils font depuis longtemps, on va dire.
Il y a plusieurs lectures, en fait, ça part un peu dans tous les sens, mais il y a plusieurs lectures des monuments aux morts. D'abord, c'est une industrie. Ça a été et c'est né d'un traumatisme. Parce que la guerre de 14-18, qui était au départ une guerre franco-allemande, un renouvellement en fait de la guerre de 70, hein, la revanche, bon, qui a été mûrement préparée depuis la fin du 19e siècle. Et par le jeu des alliances, c'est devenu une guerre mondiale. Et très vite, d'une guerre de mouvement, c'est devenu une guerre de position et qui a rendu cette guerre de plus en plus longue, avec de plus en plus de morts. On y a mis toute l'industrie, pour la première fois, toute l'industrie des pays belligérants est entrée en guerre. C'est devenu une guerre totale, avant même que le terme soit inventé, c'est devenu une guerre totale. Donc l'arrière comme le front était mobilisé. Donc les ouvriers fabriquaient, ceux qui restaient, les vieux, et puis les femmes se sont mises à fabriquer les armes pour alimenter le front. Et puis c'est devenu une guerre sale aussi, parce qu'on a utilisé les gaz. Hein. Mon grand-père était gazé, il a été gazé. Après, ça n'a pas empêché de retourner au front, pour d'autres raisons. C'est la guerre sale. La guerre également avec des projectiles inflammables, avec ça ne s'appelait pas à l'époque des munitions à... Comment on appelle ça? Qui se multiplient quand on les lance.
Les sous-munitions.
Mais ça existait. En tant que prototype, on a fait avancer la mécanisation. On a fait aussi les premières canonnades. On a souvent reproché à Staline les orgues où il arrosait tant qu'il pouvait pour ensuite arriver sur un champ de bataille, retourner 27 fois et finir le boulot. Non, en fait, c'est nous qui l'avons, durant la guerre de 14-18, qui avons initié ce genre de techniques guerrières. Les sharpness, les obusiers, ça remuait la terre. Donc tous ceux qui n'étaient pas tués étaient enterrés, vivants. Ça fait des millions de blessés et des millions de morts aussi. Et c'était une guerre totale, une guerre sale, totale. Donc je pense qu'à un moment donné, quand elle s'est arrêtée, d'abord le 11 novembre, c'est un armistice, hein, la paix, qui ne sera pas une bonne paix d'ailleurs, qui sera faite un peu n'importe comment, quelques années.
Elle va amener à la seconde.
Oui, quelques années plus tard. Mais elle est, de toute façon, l'armistice était déjà partait très mal parce que c'est un armistice par défaut. Ça a été l'arrêt des hostilités. C'est ça qu'on fait, c'est l'arrêt des hostilités. On ne peut plus de la guerre. Faut se replacer dans le contexte, hein, pour l'arrière comme pour les soldats. Alors, les soldats s'attendaient à mourir, hein. La plupart, quand vous lisez un peu les notes prises par le commun des soldats, à chaque fois qu'il y a un bombardement, il y a des prises de coliques, de diarrhées, de vomissements, avoir autour d'eux que des morts, en fait, des paysages lunaires, on ne sait plus si c'est le jour, la nuit, énormément de... On a développé la médecine, et effectivement, comme tu le rappelles, Joël, la médecine psychiatrique. Le nombre de personnes traumatisées par cette guerre, parce que ça rend fou aussi, ça rend fou. Donc vraiment, ça a été un traumatisme. Et ces monuments, ça a été... je crois qu'on peut le lire comme... c'est d'abord du souvenir, c'est-à-dire que ceux qui sont revenus, ils étaient coupables, hein. Ils se sentaient coupables.
Comme à chaque guerre, en fait.
Oui.
Quand
ils se sentaient coupables d'être en vie. D'être en vie.
Oui, mais ils sont traumatisés en même temps. Ils se sentent coupables d'être encore vivants.
Bien sûr, parce qu'on a perdu. On se fait. Alors, à l'armée, on peut en penser plein de choses négatives. Il y a un moment donné, quand on est surtout en période de guerre, il y a un esprit de corps qui se crée. Parce que, ensemble, la première chose, c'est qu'on va survivre. C'est on va survivre et puis on va créer du lien humain, même si ça paraît complètement dérisoire, parce que ça permet de tenir. durant des conflits aussi, aussi violents. Et puis, bah, quand on est seul de son régiment à revenir, même s'il manque un bras, une jambe ou un œil, ouais, c'est un traumatisme à la fois parce qu'on a vécu, puis par tous ceux qu'on a vus mourir. Donc, on peut pas, faut pas négliger cette espèce d'élan qu'il y a eu, alors qu'il a été un petit peu guidé, hein, mais l'élan qu'il y a eu de, au-delà du patriotisme, de marquer le souvenir de tous ceux qui sont morts. Et tous les monuments, normalement, contiennent, année par année, tous les morts du village. Mmh. Et ça, c'est de la commémoration, c'est le travail de la mémoire, pour ne pas oublier que ça a été un événement terrible, qui a saigné quand même la population française, mais ailleurs aussi. Hein,
Oui, chez les Allemands aussi.
En même temps, dans ces monuments-là, on ne parle pas des... là, on parle des morts... pour la patrie, pour la France, et qui ont été tués normalement, généralement, par les Allemands, donc l'ennemi. Mais on ne parle pas des morts qui ont été tués...
Par la France.
Par la France, mais on ne parle pas des morts qui ont été tués par les propres... sous l'ordre des propres officiers...
Les butins.
Des officiers français. C'est-à-dire que dès que quelqu'un... il y avait des mutineries, dès que quelqu'un refusait de prendre des armes, dès que quelqu'un, dès qu'un soldat refusait de suivre les ordres, tout de suite, pour l'exemple, il fallait le tuer. Et ça, il y en a eu. Il y en a eu des centaines. Et ils ont été tués par les propres officiers français, leur hiérarchie, quoi. Pour donner l'exemple.
Ils apparaissent pas sur les monuments.
Ouais. Bah bien sûr que non, puisque il y a encore beaucoup de soldats qu'on peut appeler qu'on pouvait appeler déserteurs, objecteurs, etc. Qui étaient contre, et ceux-là ils ont été fusillés et ils sont toujours pas aujourd'hui pour beaucoup encore reconnu. Toujours pas réhabilités. Mmh. Et là il y a encore des familles encore qui n'ont pas encore vu la réhabilitation et sauver l'honneur de leurs parents par rapport à ce problème. Et ça, c'est quelque chose qui devrait être quand même redit, d'autant que l'objection de conscience, elle ne date pas d'aujourd'hui.
C'est pas l'État donc qui va encourager la désertion, quand même.
Largement réhabilité, quoi. On a des témoignages. Hein. Il y a un livre qui parle beaucoup de ça. C'est un livre de Roger Monclin, Les Damnés de la guerre. Et alors, Roger Monclin a fait il a rassemblé des tas de témoignages de soldats. Donc qui ont vécu ces choses-là et donc il est très intéressant à lire et il faut qu'on puisse en tenir compte justement pour pas que ça se reproduise tout ça.
On va faire une petite pause musicale.
Say it again. Whoa. 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 women. Whoa. It ain't nothing but heartbreaker. Whoa. I got one friend, that's the Undertaker.
La guerre, à quoi c'est bon ? Absolument à rien. Enfin, pas tout à fait. Ça rapporte quand même, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à ceux qui la produisent. C'était Edwin Starr, qui chantait War. Mais c'était plutôt, lui, pour l'occasion de la guerre au Vietnam. Et pour les Américains. Voilà. Petite musique un peu entraînante. Bon, ils n'ont pas écouté, ça jactait dans tous les sens, là.
On jacte pas, on repense à tout ce qu'il y a à dire. Il y en a énormément. Non mais.
Elvira, tu nous lis plus de texte, hein.
Non mais il y a.
Je te vois là.
Il y a pas que la cour martiale, hein, qui est intervenue, parce que parfois la cour martiale n'intervenait pas. Et justement, il y avait les accusations, mais il n'y avait pas possibilité à l'avocat défendeur de se prononcer. Et donc, il y a bien des innocents qui ont été fusillés alors qu'ils étaient innocents et qu'ils l'ont acclamé depuis jusqu'à la fin.
Alors, tout ça parce qu'on a évoqué les monuments aux morts, et sur les personnes qui sont mortes durant la guerre, il y avait des mutins, des réfractaires, et ces personnes qui ont été fusillées suite à un procès de cour martiale, effectivement,
non, même des fois sans procès, hein.
Ne figurent pas sur les monuments aux morts.
Et officiellement, il y en a été compté 1637.
Ouais, quand même.
Oui, oui, c'est important. Et attends, parce que les auteurs de cette, à l'époque du crapouillot, Galtier-Boissière, là, il a estimé que il s'était élevé à 2500. Mmh. 2500 mecs qui se sont fait fusiller alors qu'ils étaient innocents. Par la France.
Et des fois, sans prouver qu'ils étaient ne serait-ce qu'objecteurs, réfractaires ou
je pense que l'exemple, la valeur de l'exemple pour terroriser les autres, pour dissuader les autres.
Donc, ça a arrangé les officiers.
Je crois qu'il y en a peut-être un petit peu rien à foutre que tu sois vraiment coupable ou non. Je sais que tu sois un peu suspecté, je ne sais pas.
Non, mais c'est pour garder ce que tu disais tout à l'heure, leur autorité.
Ouais.
Et puis se faire voir comme quoi c'était des officiers et donner l'ordre pour montrer l'exemple que il fallait. Parce que, quand même, dans les tranchées, il y a énormément de soldats qui étaient contre. Ils en avaient assez, quoi. Déjà en juillet, ça commençait en mai, mais en juillet, déjà, il y avait beaucoup de soldats qui ne voulaient plus continuer à la faire. Donc, pour ces officiers-là, il fallait montrer l'exemple. Il fallait montrer que dès qu'on ne suivait pas l'autorité de la hiérarchie des officiers, ils étaient fusillés, quoi. Donc, ça, il faut le dire aussi, hein, parce que, bon, ça prouve bien qu'il y a la hiérarchie, l'autoritarisme, et puis le côté dictatorial de ces officiers, quoi.
En plus, ils ont pondu une loi, mais c'est crado, hein, là. C'est 24 décembre 1900. Il y a une loi qui a été votée, ils se sont fait voter une loi stipulant qu'il ne peut être exercé aucune sanction disciplinaire contre les chefs responsables des exécutions sommaires. C'est mignon, hein.
Ah. Ah, c'est ça gentil, vous rappelle hein, rien, gentil, ça. Franco, il avait fait la même chose. En Espagne, ils avaient fait la même chose.
Il fallait pas
poursuivre les bourreaux franquistes. Une fois qu'ils disaient bon, on va libérer les prisonniers politiques, ok, mais il faut pas poursuivre les bourreaux qui avaient fait ça pendant le franquisme. Donc, ça rappelle quand même comme si Franco avait été à bonne école, c'est-à-dire à l'école française du début du XXe siècle.
C'est, c'est un militaire, hein, donc je pense que voilà, ils ont, je dirais pas qu'ils ont tous le même esprit, peut-être. Parce que je veux pas avoir d'ennui, moi. J'ai déjà fait le trajet dans le métro avec la police, hein. J'aurais pas finir au trou. Non, mais oui, ils ont le même esprit. Je pense que leur concept, c'est que bah, quand tu donnes un ordre pour aller faire la guerre, c'est que tu obéisses et non pas que tu mettes crosse en l'air. Non ?
Oui.
Mais c'est les mêmes qu'on envoie tout le temps en front. Hein. C'est bah pas oui, justement ceux qui déclarent la guerre. C'est ceux que. C'est toujours les mêmes qui font la chair à canon.
Maintenant, ça se. Alors, effectivement, alors là, on peut peut-être faire le lien justement peut-être avec ce qui se passe en Ukraine. Il y a quand même des militaires de métier. Justement, quand on a arrêté le service national en France, c'est peut-être sans doute qu'ils estimaient qu'il valait mieux avoir des militaires de métier. Bon, ils reviennent dessus sur cette idée avec le SNU. Mais il y a pas mal de militaires de métier. Bon, il y a quand même des volontaires qui visiblement s'engagent dans. Alors plutôt hein, des Ukrainiens qui s'engagent dans l'armée et des réquisitionnés pour l'armée russe. Alors, l'armée russe, effectivement, il y a peut-être quelque chose qu'on rappelle peut-être pas assez souvent, mais c'est qu'il y a, tout le monde n'est pas chaud pour faire cette guerre.
Il y en a pas mal qui
essayent d'y échapper, de se barrer, qui n'ont pas envie de faire la guerre, qui n'ont pas envie de mourir et qui n'ont pas forcément envie de tuer non plus. Non ?
Ah oui, sûrement.
Ouais. Ah, sûrement.
Bah oui, c'est pour ça que justement, il y a aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, des objecteurs, enfin des Russes qui ne veulent pas faire la guerre, comme des Ukrainiens. Ils ne veulent pas rentrer dans ce truc-là, quoi, tu vois. Donc, nous, on n'est pas les recevoir, hein, on n'est pas les seuls. Hein. L'IRG, avec les différents groupes de différents pays,
Encore faut-il qu'ils puissent sortir de chez eux, quoi.
Le problème,
c'est de sortir, c'est pas tellement de les recevoir, c'est qu'ils puissent sortir.
Alors, pour l'instant, la plupart sont passés par l'Allemagne. Et c'est les copains allemands qui s'occupent d'eux.
Ouais.
Nous, bah, oui, on y pense. S'ils arrivent ici, on s'occupera d'eux. On leur procurera des avocats, des choses comme ça pour obtenir les papiers. Enfin,
je ne sais pas comment ça se passe, mais là, comme ils ont des visions sur la migration un petit peu plus restrictives, alors là, si en plus, c'est des...
Oui, bah
pas forcément des déserteurs, mais des objecteurs de conscience ou des personnes qui veulent échapper à la guerre. Mmh. Et comment ça va être pris par le gouvernement, ça? Alors que le gouvernement français, par exemple, lui, justement, il aurait plutôt tendance à essayer de développer, à reprendre le service national par le biais du SNU.
Bon, c'est justement c'est l'objectif de toutes les associations antimilitaristes, c'est de les accueillir et puis les diriger et puis tout ça. Bon, pour l'instant, c'est calme. Tout le monde est en Allemagne. Et en Allemagne, ils sont dirigés quand même. Mais bon.
Oui, ils sont quand même nombreux là. Hein.
En Allemagne et puis dans les pays du Nord aussi. Hein. Dans les pays du Nord, ils sont bien installés. Ah ben, ils sont installés un petit peu partout, tous les pays autour. Parce que c'était le plus facile. Proches. Mais bon, il faut aussi qu'ils aillent un peu plus loin, sûrement, probablement. Même.
Donc, bah, il y a un moment, peut-être que certains pays vont plus
vers
vouloir
le
les accueillir non plus.
Oui.
Hein, le
les tensions politiques
la Norvège,
entre les divers pays.
La Norvège,
divers
ils ont déjà mis
ils vont vers
là,
la Finlande
peu,
aussi, quand même. Ah oui,
je pense que
les partis
d'extrême droite.
La guerre est un problème. Hein. La guerre n'est pas une solution, c'est un problème.
des partis d'extrême droite nationaliste, on va dire, de chaque pays, effectivement, vont pas, à mon avis, vont pas tolérer qu'il y ait comme ça des réfugiés politiques, on va dire, mais qui essaient d'échapper à la guerre. Donc forcément, ça va créer des tensions entre les différents partis, c'est le jeu de la politique. Hein. Oui, en France aussi.
Même la France.
Donc effectivement, si...
C'est déjà que...
Soit il faut que la guerre s'arrête tout de suite, ou ça va mal finir pour tout le monde.
Oui, mais là, pour eux, en tout cas. On voit bien que cette guerre de l'Ukraine, elle n'a pas l'air de vouloir... enfin, que les...
En tout cas, ça dure depuis 2014.
Les grosses têtes qui dirigent les deux pays, ils n'ont pas l'air de vouloir l'arrêter. Hein. Puis il y a vraiment trop d'intérêt que ça s'arrête. Hein.
Les Occidentaux n'ont pas forcément ni envie ni intérêt que ça s'arrête. Non ? Bah, d'abord, on disait
d'abord
tout à l'heure...
D'abord, parce qu'on est un des pays les producteurs d'armement. En France, on est quand même le quatrième, si je ne me trompe pas. Ouais.
Ah, les produits, puis on les vend surtout.
Le troisième, enfin ils disent le
donc,
troisième.
Donc, c'est pas intéressant d'arrêter la guerre. Hein. C'est pour eux, c'est au contraire, c'est intéressant de faire la guerre. C'est quand même dans le cadre des profiteurs de guerre, hein, quand même. Et il y a pas que ça. Il y a derrière l'Ukraine, il y a les États-Unis qui aussi sont quand même des premiers producteurs d'armement. Enfin, et puis bon, c'est toujours le problème d'un impérialisme contre l'impérialisme, contre un autre. Hein. Ça n'a pas beaucoup changé hein, de ce côté-là. Hein. Maintenant, il y en a d'autres, évidemment. Il y a la Chine qui est derrière, mais enfin bon, quand même, l'impérialisme des États-Unis est derrière l'Ukraine. Et puis, il y a l'impérialisme en face de l'URSS qui veut récupérer tous les territoires à n'importe quel prix. Donc, c'est pas que la guerre d'Ukraine et de la Russie. Hein. C'est une guerre qui pourrait être mondiale hein, à un moment donné. Parce qu'il y a...
Par des moyens détournés, ouais, il y a déjà.
De toute façon...
Après, c'est vrai que le problème, c'est aussi de... La difficulté, c'est... Un pays se fait envahir. Est-ce qu'on les aide ou pas
oui.
à accueillir,
oui.
effectivement.
Ah oui, mais c'est
non,
pour
mais
ça
le
que
dilemme, c'est
nous,
ça
en tant qu'antimilitariste, c'était problématique. Quoi. Moi, carrément, au départ, si tu m'en mets une... Je ne vais pas dire amen, hein, ouais, mais eux, quand ils ont été envahis, ben, c'est normal, ils se sont défendus, donc oui, il fallait y aller. Donc, oui. Mais aujourd'hui, ça prend une tournure gigantesque. Quand tu vois les milliards qui sont fournis par les USA et puis tout le monde...
C'est pour ça que ça ne va pas s'arrêter tout de suite.
Mais justement, ce qui est à craindre, c'est la bombe sale. Si jamais, alors là, ça va monter d'un cran.
Ça va régler le problème, définitivement.
Ah bah oui, mais oh non, ça va monter d'un cran. Oui,
là, il n'y a pas que la guerre, il y a aussi le nucléaire, là, qui est quand même très menaçant.
Vous avez compris. Éric, tu voulais intervenir ?
Je crois que c'est simplement un degré dans quelque chose qui n'est pas... Bref. Oui, je pense que non, c'était tout à fait prévisible. Je veux dire, toutes les guerres... On commence par se défendre et puis on finit par s'entretuer et par le biais des alliances, toujours, mais c'est comme en 14, hein, pareil, hein, par le biais des alliances et puis des intérêts, bien entendu, on finit par créer quelque chose de plus important que le simple fait de répondre à une agression au départ. Et ça, c'est une vieille mécanique. C'est une vieille mécanique qui existe depuis. Et puis les guerres les plus terribles, 14 a été particulièrement terrible parce que c'était la première guerre où. Faut le rappeler.
Mondiale,
c'est rien, ça, on s'en fout. Il y a une autre guerre mondiale. Relisez les historiens sur la guerre de 30 ans, vous verrez ce que c'est qu'une guerre mondiale où tout le monde égorge tout le monde et on n'en suit qu'à voter nulle part. Donc là, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ça a été la première guerre où tous les enjeux, c'est-à-dire économiques, financiers, militaires, territoriaux, se sont conjugués, politiques aussi, se sont conjugués avec cette volonté d'anéantir l'autre. C'est, je vais pas simplement dire, tiens, Bob, je te mets deux tartes, je plante mon drapeau, et il faut qu'en plus loin, c'est chez moi maintenant. Je la fais un peu courte. Et puis voilà, j'ai gagné. On signe un truc, là, bon, alors tu deviens mon vassal, un peu comme au 6e siècle, au 7e siècle, et puis voilà, enfin un petit peu plus après, quoi, 9-10e siècle. Et puis après, voilà, on se serre la main, bon, tu me redonnes un petit peu de blé, parce que là, maintenant c'est moi le maître, donc tu vas me donner quelque chose. Mais ça va pas plus loin. Les 14-18, ça a été la première guerre de masse où on a cherché massivement à anéantir l'autre. À anéantir l'autre. C'est une autre psychologie déjà. Hein. C'est pas pareil. On était. Et pas simplement. Alors j'ai évoqué la guerre de 30 ans, pas simplement parce qu'on est catholique ou protestant, mais. Et puis parce qu'on est allemand ou suédois, dans les questions de nationalité et de religion, ça c'est les vieilles lunes, mais parce qu'il y a des intérêts conjugués pour la domination. Et la domination à la fois économique, politique, humaine, parce que derrière, il y a aussi des luttes, on va dire, ethniques, ethnoculturelles, entre l'Allemagne et la France. Lisez la presse avant 14 en France comme en Allemagne, notamment la presse satirique. On représentait les Allemands et les Français sous des traits pas très sympathiques et avec des connotations ethnoculturelles voire racistes évidentes. Même si ça peut paraître curieux hein, aujourd'hui, mais il y avait tous ces facteurs conjugués, mais tous, hein, tous, plus le partage des colonies, parce que les colonies, ça veut dire des richesses, ça veut dire une augmentation du pouvoir, de la puissance, de ce que vous voulez. Donc on était sur un modèle impérialiste aussi. Et l'idée, c'était, on va anéantir l'autre. Et ça, c'était nouveau. Et puis, ça n'a fait que se développer. Regardez, aujourd'hui, les guerres sont acharnées. Ouais, rappelez-vous l'intervention des États-Unis en Afghanistan.
Bah, ils interviennent un petit peu partout.
Ouais, moi, ce qui m'a c'est que pour lutter contre des compagnies, des escouades, des compagnies, c'est à peu près 250 hommes, hein, donc très peu de résistants dans les montagnes qui n'arrivaient pas à déloger. Ils envoyaient des bombardiers et ils lâchaient des tapis de bombes. Donc ça remuait tout, hein, bah, comme en 14, comme Staline durant la Seconde Guerre mondiale, à l'aveugle. Et ça même un âne ne tenait pas debout. Les ânes, ils se cassaient la gueule. À plusieurs kilomètres des bombardements. Donc les bestiaux, pourtant, pour faire tomber un âne, faut s'accrocher. Hein. Eh bien, les bazars, ils se retrouvaient par terre, ébranlés, mais sur à 20, 30, 40 kilomètres de l'endroit où le tapis de bombe était jeté. Évidemment, ils ne tuaient pas tous les ennemis, ce n'était pas possible. Les autres, ils sortaient des montagnes, et puis à nouveau, ils attaquaient les convois américains, etc. Et ils recommençaient. Et ça ne sert pas de leçon. L'idée, c'est d'anéantir. Voilà. Toutes les guerres sont sales de ce point de vue-là depuis toujours. Pour moi, 14-18 a marqué un tournant sur le plan de l'analyse hein, du conflit. Ça a marqué un tournant et il fallait pas s'attendre à autre chose. Hein. Ça ne pouvait que s'enliser parce qu'il n'y a pas que les décideurs de ce. Alors effectivement, ceux qui décident la guerre, c'est souvent des civils, hein, des hommes politiques dans nos civilisations modernes. On dit, c'est le président, le machin qui dit, moi je vais faire la guerre, toi t'es pas gentil. Elle envoie les militaires faire la guerre. Très bien. Parce qu'ils sont faits pour ça, hein, dans les structures sociales. Si les militaires veulent pas faire la guerre, il n'y a pas de guerre. Donc derrière, il y a une partie de la population qui est prête à en découdre. Il suffit simplement de lui raconter la bonne histoire.
Donc il faut pas qu'il y ait des militaires.
Non, mais il n'y a pas que des militaires en Ukraine et en Russie. Les partisans yougoslaves.
Mais qui mène la guerre, c'est quand même les militaires. Et de toute façon, il n'y a pas de guerre propre. Hein.
Non, mais il n'y a pas de guerre propre.
Il n'y a pas de guerre propre, et puis c'est toujours pour anéantir l'autre.
Hein. Non.
Toujours pour anéantir.
Non, pas toujours.
Si, une guerre, c'est toujours pour anéantir l'autre. Ça c'est
historiquement
l'Ukraine,
faux.
L'Ukraine, c'est un petit peu la colonie de la Russie, quoi. C'est le grenier à blé, c'est ce qu'ils veulent mettre la main.
Ils veulent récupérer leurs anciens territoires, la Russie.
C'est les mines de charbon, c'est tout ça, oui.
Parce que l'Ukraine, c'est quand même un pays riche au point de vue économique.
Alors, au point de vue économique, oui. Après, la Russie, elle ne s'est pas créée en un seul point. Hein. Il y a eu trois foyers la nation russe, on va dire, pour aller simple. Effectivement, il y a une part en Ukraine. autour de la Moscovie, et puis un petit peu plus au nord, ce qui deviendra Saint-Pétersbourg par la suite. Donc la région de Carélie, etc. Donc et puis ça a changé en fonction des aires de domination du souverain du moment, quoi. Mais je crois que tout ça c'est des faunés. Hein. Ce qu'ils veulent, je suis assez d'accord avec toi, ce qu'ils veulent, c'est récupérer des richesses, des terres pour et puis un accès à la mer Noire, parce que
ah,
c'est
oui,
important.
Très important. Oui, oui, c'est ça.
Voilà, c'est après tout ça, il faut une histoire pour dire on va récupérer la terre de nos ancêtres, de machin, des trucs. Puis, c'est des contes. De bonnes femmes, ça.
Oui, ils veulent récupérer les anciens territoires qu'il y avait au moment de l'URSS, hein. C'est surtout ça. Mais parce que c'est un fou, hein. De toute façon, c'est quand même... De toute façon, enfin, à je mon pense avis, ils sont tous fous quand ils...
Les frontières de l'URSS, oui, c'est un prétexte à... Oui. Ils vont invoquer ça pour dire, oui, bien on sûr, va récupérer... Oui. Mais voilà, mais le fond, c'est effectivement les ressources naturelles. Oui. Et les accès, les points d'accès maritimes.
Ouais, et puis il y a plusieurs. Puis c'est la main mise sur un territoire, sur une population disponible pour en faire des ouvriers, éventuellement des militaires, pour les utiliser, quoi. C'est ça aussi. Donc ils ne vont pas les massacrer, ils ne vont pas les anéantir tous.
Bah, j'ai envie de dire que cet esprit, le français, là, en Afrique aussi, hein, parce qu'il y a des petites guerres tribales en Afrique, on est quand même dedans. Hein, je veux dire, pourquoi faire ? Pour récupérer, justement, exploiter les sols africains. C'est pas pour aider les Africains qu'on est là-bas. Il faut pas se leurrer. Nous, on n'est pas des saints, hein. En France, enfin, on fait la guerre quand même à longueur de temps.
Le gouvernement français.
Oui,
attention.
Pas nous. Ah bah oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est pas nous. Mais c'est quand même nos gouvernants qui envoient des grosses boîtes comme Arenba, etc. Et encore d'autres, et Total, et tout ce qui s'ensuit. Pourquoi ? Pour récupérer et exploiter les sols. C'est pas pour aider les Africains. Donc on a quand même la même mentalité. Les gouvernements français, il a la même mentalité, peut-être différemment et sous une autre forme, que peut l'avoir Poutine, hein, de toute façon. Pour récupérer, d'accord, eux c'est l'Ukraine, mais nous c'est pour récupérer quoi ? On récupère pas l'Afrique,
on exploite leur sol. L'uranium qu'on va récupérer au Niger, on leur fout pas des bombes sur la gueule. On fait des accords avec les chefs d'État locaux.
Oui, mais les chefs d'État locaux, c'est ils sont complètement corrompus. En Afrique, ils sont presque tous corrompus.
Non, mais je veux dire, tu vas pas avec des militaires pour envahir le truc et tu fais une guerre longue pour les détruire.
Mais c'est vrai que c'est peut-être un autre débat. Mais enfin, l'objectif, on va dire, hein, de l'UP, c'est quand même pas ça. C'est quand même de faire la guerre, c'est quand même de réhabiliter collectivement tous ces gens qui injustement ont été tués, c'est de éviter la guerre, c'est que il y ait pas de profiteurs.
Alors, il faut s'activer pour justement la dénoncer. Alors effectivement, le fait de mettre le SNU en place, est-ce que c'est une manière pour le gouvernement justement de réactiver ses forces
Il faut aussi travailler sur au lieu de faire une éducation à la guerre, faire une éducation à la paix. Ça serait déjà une bonne chose. Et l'éducation à la paix, elle se fait à travers l'éducation tout court, c'est-à-dire les écoles, enfin la dignité de l'homme. Qu'il soit le plus informé possible et qu'on puisse au lieu de l'éduquer, à dresser, à dompter, à soumettre, etc., qu'on l'éduque à se remettre, à s'informer, à s'affirmer, à s'assumer et à...
Alors justement, j'ai vu que le gouvernement qui met quand même pas mal de moyens pour justement développer le SNU, visiblement, hein, c'est quand même
il met le paquet. Hein.
Il met
là,
le paquet.
Pas le chiffre.
Il y a pas mal de propagande, mais donc du coup, il y a quand même une résistance. J'ai vu à travers les profs, les parents d'élèves. Donc, c'est ces personnes-là qu'il faut toucher pour que eux-mêmes touchent, expliquent à leurs enfants.
C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaye à travers la campagne du SNU, toucher la majorité des gens, les parents, les éducateurs, enfin surtout les instituteurs, les professeurs, pour qu'ils fasse prendre conscience de ce que ça implique, quoi. De ce que ça implique.
Il semblerait que les promesses, ce que prévoyait notre président Macron sur les effectifs de SNU soient quand même revus à la baisse. Lui, il comptait avoir 50 000 recrues.
Oui, il y en a moins de ce qu'il voulait au départ. Voilà.
Donc
sur
c'est quand
5
même
ans.
Que la propagande, dans le bon sens, c'est toujours dans le bon sens, mais la propagande pacifiste passe bien quand même.
Combien de temps ? Parce que de toute façon, il y a une carotte aussi. Il y a une carotte, c'est que tu ne peux pas passer tes examens, tu ne peux pas passer le permis de conduire.
Ça, c'est le bâton.
C'est pas une carotte, ça, c'est le bâton, comme dit Eric. C'est plutôt pour obliger. Parce qu'ils disent, jusqu'à présent, c'est pas obligatoire. Mais si on te dit, mais si vous ne pouvez pas passer le bac ou vous ne pouvez pas faire des études supérieures et tout, ça va devenir obligatoire, forcément. C'est une façon que ça devienne obligatoire. Donc, c'est quand même un peu vicieux, quand même.
C'est pas un peu.
Même carrément. Plus qu'un peu. Ouais. Donc, c'est ça qui est dangereux, en fait.
Il y a le budget du SNU qui va augmenter de 30 millions en 2023 par rapport à 2022 pour être porté à 140 millions. 140 millions.
Et là, il y a de l'argent, là.
Pour commencer, ouais.
Là, il y a de l'argent. Ça coûte très très cher.
Et ils vont ça revient à 2200 par jeune, quoi. 2000,
C'est vrai
pour les 8 jours qui vont passer à faire le con. Hein. Ça, c'est payé sur l'éducation nationale. C'est fortiche.
Oui,
parce que les deux ministères se sont rassemblés
exactement.
On peut
pas.
Donc on encadre, mais on paye pas. Et ça, c'est incroyable.
Ouais.
Donc que l'éducation nationale accepte ça, c'est incroyable.
C'est l'éducation nationale est quand même dirigée par le gouvernement. Donc alors après c'est toute l'éducation nationale, c'est-à-dire les professeurs et tout ça qui se rebifferait contre ça. Mais sinon, de toute façon, le ministère des Armées va avec l'éducation nationale. Et dès le départ, ils ont fait payer à l'éducation nationale tous les frais sur le SNU. Tous les frais. Et ils continuent. Et on sait aujourd'hui que l'éducation nationale est quand même malade. Il faut dire ce qui est. On est quand même en régression par rapport au classement de l'éducation par rapport à beaucoup de pays, à une trentaine de pays dans le monde. Et évidemment, on va donner des millions pour le SNU, alors qu'on ne le donne pas pour l'éducation. Et l'éducation, c'est très important, justement, pour éviter de faire des guerres. Mais ça, c'est pas le cas. Enfin, c'est pas le cas.
Je propose qu'on fasse une petite pause musicale et puis qu'on fasse une conclusion et puis les annonces militantes, parce que l'Union pacifiste est active en ce moment.
Oui.
On va faire une petite pause musicale.
Puisque le feu et la mitraille, puisque les fusils et les canons font dans le monde des entailles, couvrant de mort et les ballons, puisque les hommes sont des sauvages qui réunissent la fraternité, femmes debout, femmes à l'ouvrage, il faut sauver l'humanité. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité, déclare la grève des mères, au bourreau crie ta volonté, défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Tu as peiné pendant 20 ans, tandis que la gueuse en assomme en 20 secondes des régiments. L'enfant qui fut ton espérance, l'être qui nourrit de ton sein, meurt dans d'horribles souffrances, te laissant vieille, souvent sans pain. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité, déclare la grève des mères, au bourreau crie ta volonté. Défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Est-ce que le ciel a des frontières? Ne couvre-t-il pas le monde entier? Pourquoi sur ta
Retour à l'antenne du Monde Merveilleux du Travail avec l'Union Pacifiste et nous passons aux annonces. Elvira.
Eh bien, moi, j'ai une annonce à faire un petit peu sur la province. Donc, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Donc, Agencio, dans la Creuse, hein, le 11 novembre à 11h. Donc, voilà, il y a un rassemblement. Hein. Et puis, à Clermont-Ferrand, dimanche 13 novembre à 11h, au Square de la Jeune Résistance, au pied de la stèle en l'honneur de Jean Jaurès. À Saint-Martin-d'Estraux, dans la Loire, il y a également le 5. Donc, du coup, ça, c'était passé. C'est passé, je suis désolée, à 10h30. À Rocle, dans l'Allier, le 12 novembre, à 11h aussi. Et puis, plus d'une centaine d'autres rassemblements en France en ce qui concerne les monuments et maudite soit la guerre, maudite soit toutes les guerres. Voilà. Après, il y a la semaine antimilitariste à Publico. Donc,
je laisse ça déjà. Oui, c'est à Publico, donc à la librairie Publico. Le mardi 8 novembre, à partir de 18h, il y a un vernissage Fête de l'art, pas la guerre. Ça a été fait par Claude Guen. Le mercredi 9, il y a une projection débat Choisir à 20 ans. C'est sur le. Sur l'Algérie puis la Suisse, ça date de 2017, je ne sais pas ce que c'est. Le vendredi 11 novembre, ben, il y a l'après-midi antimilitariste et pacifiste avec l'Union pacifiste, avec Maurice Monté. Et puis après, il y a contre le SNU, le SNU, SNU, Service National Universel. Donc là, il y a une présentation d'un petit film, puis après un débat. Avec Bernard Bessa, oui. Après, il y a un petit récital avec Pedro Fidalgo, Marc Avé, Nathalie Solance, Nicolas Duclos, Bruno Daratti et Pascal Lequin, Monica Journet et peut-être Fabienne Elkoubi. Le 12, c'est du rock. La musique contre le silence des pantoufles. Le dimanche 13 novembre à 16h, c'est des chansons antimilitaristes avec Marc Avé, Nathalie Solance, Nicolas Duclos, Bruno Daratti, Pascal Lequin, Monica Journet et peut-être Fabienne Elkoubi. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a un journal qui va sortir le mardi 15 novembre, Maudite soit la guerre, c'est dossier spécial des casseroles, journal féministe et libertaire. Voilà.
Bon, pour moi. Vous pouvez aussi consulter sur internet, sur le site, hein, Librairie Publico, il y a tout le détail et les horaires, etc.
Oui. Donc bah, vous avez fait toutes les annonces en fait.
Mais il me reste une, celle du. Encore un événement le vendredi 11 novembre 2022, la journée du souvenir pour les travailleurs, travailleuses du BTP. Morte au travail en 2022. Donc un rassemblement de 11h à 13h, square Louise Michel, dans le 18e. Et c'est lancé par le syndicat unifié du bâtiment de la CNT.
Voilà. Alors le square Louise Michel, c'est le bout d'herbe là, qui est en dessous la basilique du Sacré-Cœur. Voilà. Vous descendez à Besse, vous allez là-bas. Donc, bah, ça fait, vous faites ça, puis après, vous allez chez Publico. En fin de compte, les horaires, c'est bon.
Oui, ça peut le faire.
Ah,
ça peut
voilà,
le faire.
Ouais. Bien sûr que c'est bon.
C'est raccord.
Il n'y a pas d'autres. Vous avez fait toutes les annonces.
Moi, je pourrais terminer sur un truc un petit peu plus gai, parce que je suis tombé sur des bouquins. Mouna, vous connaissez Mouna ?
Ouais, moi, oui.
Qui est décédé il y a déjà. Il y a 5-6 ans, peut-être.
Je ne sais plus. Ouais, je sais plus. Là...
Ouais, ouais. Donc, t'es à Guigui Mouna, ouais, je suis tombé dessus, puis il y a plein de petites phrases bien. Mais bon, il était citoyen du monde, évidemment, il était à l'UPF, et puis fondateur du club des Amis de la Vie. Et puis, j'ai récupéré quelques petites phrases intéressantes. Lui, il avait proposé d'édifier un monument à la gloire des vivants, déjà.
C'était, ça peut être pas mal aussi,
pour
oui.
démarrer. Ouais. Et puis, Les gens couverts de croix me font irrésistiblement penser à un cimetière. Ça, c'était Paul Léoto. Il faut nous aimer sous terre, sur terre. Il faut nous aimer sur terre. Il faut nous aimer vivants. Ne crois pas au cimetière. Il faut nous aimer vivants. Nous aimer avant. Ta poussière et ma poussière deviendront le gré du vent. T'es Paul Fort. Alors, bah, c'était après, c'était le truc de Mouna. Aimez-vous les uns sur les autres. Ne prenez plus le métro, prenez le pouvoir. Il faut que nous nous battions à coups d'éclats de rire. Le rire est le propre de l'homme, disait Rabelais.
Ça fait des belles rides, en plus. Pour les jeunes, plus tard, hein, faut y penser.
Qu'est-ce qu'il y avait
Vrai, ça fait penser un petit peu à l'humour qu'il peut y avoir dans le film L'An 1. Alors, c'est pas précisément anti-militariste,
ah, oui,
mais un peu dans cet esprit, quoi.
Alors, y a plus jamais la guerre. Se souvenir, c'est bien. Ne pas recommencer, ce serait encore mieux. Pour le 11 novembre, ça le fait tout à fait. Hein. Et puis, je disais que les mecs, ils croyaient mourir pour la patrie, mais on meurt pour les marchands de canons, finalement.
Ouais, bah ça. Entre autres. Ouais. Pour le commerce. Pour nous qui nous sommes du syndicat du commerce. Bon, on avait plein d'émis. J'avais encore plein d'annonces. On va pas les faire. Moi, je vais quand même juste citer les 26 et 27 novembre 2022, de 14h à 18h, au 33 rue des Vignoles, la fête du livre CNT.
Le salon du livre.
Donc, ça sera organisé, je suppose, par le service librairie.
Oui, c'est ça. Hein, mais il y aura d'autres syndicats qui se rattachent à eux.
Oui, mais ça fait rien, c'est blanche quand même. Voilà, donc le salon du livre neuf et occasion, où vous trouverez tout un tas d'ouvrages français et espagnols, des DVD, des CD. Voilà, à prix sympa. 33 rue des Vignoles, à Paris, dans le 20e, métro Avron, Buzinval. Et voilà, les 26-27 novembre 2022.
Bon, peut-être de 14 à 19h.
De 14 à 19h. On va pas tarder à lancer le générique, et puis on va laisser la place après au Muse s'amuse. Voilà, de Jean-Manuel et Christiane. Merci Elvira d'être venue.
Ben de rien, merci Joël. À vous de nous avoir invités.
Je peux t'appeler Zaza?
Ah non, s'il te plaît. Non. Elvi, si tu veux. C'est mon surnom dans la famille. Elvi.
Bon ben Elvi, merci d'être venue. Merci Joël. Il a amené plein de documentation, mais c'est pas assez.
On a parlé on a évoqué que la moitié de ce qu'on avait apporté comme documentation, fait que finalement on a pas mal de matériel pour d'autres émissions plus tard.
C'est bien prévu comme ça. Merci Eric, merci Bénédicte d'avoir assuré la technique. Et puis on se retrouve
dans deux semaines.
Le 21 novembre.
Ouais.
Sauf que j'avais prévu une émission qui ne va pas pouvoir se faire. Donc,
on verra. Elle va se faire quand même.
On verra. Quel thème ?
Mais justement, il n'y a pas de thème. C'était sur.
Je voulais.
Sur le
docu.
Le Via El Salvador. C'est un documentaire sur la ville comme ça, qui est à 30 km de Lima, au Pérou. Une ville autogérée. Et le réalisateur est actuellement. Enfin, sera en tournage à Bordeaux. Donc,
il y a le film qui a été passé à la CNT à Lima, justement, il y a quelques mois ou quelques semaines.
Je crois que vous avez tous, à un moment donné ou à un autre de votre existence, ou même encore maintenant, flirté avec le mouvement anarchiste, enfin les mouvements libertaires.
D'abord faut plus de gouvernement, puis faut plus non plus de république, plus de sénat et plus de parlement.
Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Car moi, je veux.
C'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la
révolution.